Bonjour Brema et Lidico.
Bonjour.
Pourquoi l'annonce d'un nouveau gouvernement lundi a-t-elle conduit l'armée à effectuer ce coup de force?
La raison, c'est qu'il y a deux ténors du coup d'État du 18 août qui ont manqué à l'appel du gouvernement, donc qui ont été remplacés par deux autres généraux de brigade. Donc, c'est le colonel Sadio Camara et le colonel Modibo Sidibé qui ont été remplacés. C'est ce qui a frustré une partie de l'armée, notamment la garde nationale. Et donc, ils ont mobilisé les autres collègues qui ont fait le coup d'État. Et puis, finalement, ils ont interpellé le Premier ministre, puis le président de la transition.
Mais comment est-ce que vous expliquez que le président et le premier ministre aient voulu effectuer des changements au poste de la défense et de la sécurité en y mettant des ministres qui ne sont pas des figures emblématiques de la junte?
Je ne suis pas dans les secrets de la haute administration, mais en tout cas, il y avait une volonté de construire un gouvernement de large ouverture, un gouvernement inclusif et représentatif, un gouvernement, on va dire, plus facilement contrôlable, parce que si on a toujours les ténors de la junte avec soi, c'est difficile finalement de leur imposer des instructions.
Est-ce que vous diriez du coup, Brema et Lidico, que le Premier ministre et le Président ont essayé de tester leur marge de manœuvre au sein de cette transition?
On peut dire cela, on peut penser qu'ils ont voulu reprendre peut-être la main pour avoir un gouvernement qu'ils contrôlent plus, un gouvernement qui est à même de conduire les réformes impératives pour la réussite de la transition et pour la stabilité du Mali.
Alors si on prend maintenant le point de vue des militaires, comment est-ce que vous expliquez qu'ils aient pris le risque de braquer la communauté internationale à ce point en arrêtant le président Bandao et son premier ministre Moctar Ouane?
Jusqu'à preuve du contraire, tout s'est passé bien entre le Premier ministre, le président de la transition et puis les militaires qui ont fait le putsch le 18 août 2020. Maintenant, c'est vrai que la situation sociale n'était pas enviable. Et puis bon, le M5 commençait à monter au créneau. Il y aussi avait un chronogramme qui était assez garni avec des activités, des marches qui étaient prévues, des conférences de presse, donc une certaine mobilisation comme l'année dernière. Peut-être que la junte a eu un peu peur d'être fragilisée davantage. Et pour eux, c'était peut-être plus simple de travailler à reprendre la main aussi de leur côté. Ça, c'est pour le contexte national. Après, de l'autre côté, récemment, au Tchad, on a vu que la constitution a été violée. Donc, pratiquement tout le monde a adoubé ceux qui sont arrivés au pouvoir. Donc, on s'est dit peut-être qu'on peut faire la même chose au Mali.
Pour vous, il y a un lien entre ce qui s'est passé au Tchad, à savoir une attitude conciliante de la communauté internationale vis-à-vis de la junte, et ce qui vient de se passer au Mali?
Pour moi, oui, parce que bon, dans les deux cas, ce sont des jeunes qui assurent la direction. Donc, on s'est dit qu'au Mali, on peut aussi éventuellement faire la même chose.
Quand le vice-président de la transition explique dans un communiqué qu'il a placé hors de leurs prérogatives le président et son premier ministre pour, je cite, préserver la charte de transition et défendre la République, est-ce qu'un article de la charte de transition l'autorise à faire cela?
C'est-à-dire que la charte publiée au journal officiel fait du vice-président uniquement quelqu'un qui est responsable de la sécurité et de la défense nationale. Donc, en aucun cas, il ne peut remplacer le président de la transition parce que dans la première version de la charte, il était possible de le remplacer. Donc, la CEDEAO avait insisté à ce qu'on enlève cette clause donc, de remplacement. Donc, ça veut dire que lui-même, en prenant cette décision, viole la charte et finalement prend quand même des risques vis-à-vis à la fois de la CEDEAO qui peut imposer un embargo sur le Mali, donc une économie qui est déjà éprouvée par la grève de la principale centrale des syndicats, et puis, bon, par aussi l'insécurité et tout ce qu'on connaît depuis ces 10 dernières années.
Et comment réagit-on au Mali? Est-ce que l'opinion publique est partagée sur ce dossier?
De façon générale, il y a quand même une certaine consternation, quoi, parce que on se dit bon, c'est un éternel recommencement au Mali, donc à chaque fois on rebelote avec les mêmes acteurs. On ne sait plus à quel sens c'est voué. Donc à un moment donné, le 18 août, beaucoup de Maliens avaient pensé que bon, les militaires allaient faire l'affaire. 9 mois après, la situation n'a pas véritablement changé parce que la lutte contre la corruption n'a pas bougé d'un iota. On ne sait pas jusqu'à preuve du contraire qui a donné l'ordre de tuer les manifestants du M5-RFP les 10, 11, 12 juillet. La stabilité du Mali, donc, pour le moment, reste un slogan. Finalement, bon, les gens observent qu'est-ce que la communauté internationale va faire, notamment la CEDEAO.
Est-ce que l'acte qui vient d'être posé ne joue pas finalement le rôle de révélateur en montrant que cette transition est soumise au bon vouloir des militaires?
Dès le début, vous savez, nous avons eu une transition civile militairement assistée. Et donc, on passe d'une transition civile militairement assistée à une transition militaire. Si la CEDEAO laisse entériner ce qui se passe, ça veut dire qu'on ouvre la porte bon, à d'autres expériences dans d'autres pays voisins. Et ça veut dire que aussi, bon, on abandonne le Mali et les Maliens.
Merci Brema Elidiko.
Merci.